je vais présenter maintenant M. Kontanouji, parce que comme je disais l'an dernier, on dit toujours qu'il n'est pas besoin de présenter, y compris les gens les plus connus, mais c'est important aussi de dire le détail des biographies. Monsieur Claude Kontanouji est né en 1933. Il est actuellement professeur titulaire de la chaire de physique atomique et moléculaire au Collège de France. Il y est depuis 1973. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de physique, docteur d'État en sciences physiques. Son parcours, il l'a commencé au Centre national de la recherche scientifique, puis il a été maître de conférence à la Faculté des sciences de Paris, professeur à la Faculté des sciences de Paris de 67 à 73, et en 1973, il a été élu professeur au Collège de France. Il est membre de l'Académie des sciences, membre associé de nombreuses académies. Il a obtenu des prix et des distinctions, et le seul que je mentionnerai, c'est le prix Nobel de physique 1997. Il est l'auteur de très nombreux articles théoriques et expérimentaux et d'ouvrages. Je signale quelques-uns. Vous pourrez les retrouver sur tous les sites internet. Optique et électronique quantique, les Ouches, 1964. Mécanique quantique, tomes 1 et 2 chez Hermann en 1973. Photons et atomes, introduction à l'électronique dynamique quantique, édition, interédition et CNRS 87. Processus d'interaction entre photons et atomes, 1988. Atoms in Electromagnetic Fields, en 1994. Tous ces ouvrages sont, les ouvrages français sont tous traduits, ont tous été traduits en anglais. Je vais donc lui donner la parole pour nous parler de visualisation et manipulation des ondes de matière. En venant ici, je réfléchissais que ce titre était particulièrement à la fois poétique et il va nous le montrer particulièrement théorique aussi.
Monsieur le ministre, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, avant de commencer cet exposé, je voudrais vous dire, cher monsieur Michaud, toute ma reconnaissance et toute mon admiration pour l'initiative que vous avez prise de créer l'UTLS. L'intérêt considérable qui s'est manifesté pour la série de conférences que vous avez organisées l'an dernier, tout au long de l'année, a montré clairement et concrètement qu'il existe dans notre pays un public large, désireux de s'instruire, de se cultiver et d'élargir ses connaissances dans tous les domaines du savoir. À l'heure où la plupart des chaînes de télévision semblent obsédées par la recherche effrénée des parts de marché, quitte à verser dans la médiocrité, la vulgarité et le voyeurisme, une telle démonstration nous réconforte beaucoup. Et nous permet d'espérer que la situation changera peut-être un jour si nous y mettons tous les efforts possibles. C'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez invité il y a quelques semaines de faire une conférence dans ce nouveau cycle, j'ai immédiatement accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie de votre invitation et du très grand honneur que vous me faites en me demandant d'ouvrir cette série de conférences qui, j'espère, rencontrera autant de succès que celle de l'an dernier. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais descendre en bas parce que ce sera plus simple pour moi de présenter mes diapositives. Le thème que vous avez choisi cette année est l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'observation dans les sciences. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des ondes de matière, de leur visualisation et de leur manipulation. Il s'agit là d'un nouvel état de la matière sur lequel de nombreuses recherches sont en cours dans de nombreux laboratoires dans le monde entier. Certaines des recherches dont je vais vous parler, certains des résultats ont été obtenus dans les derniers mois qui viennent de s'écouler, voire dans les dernières semaines. Et je vais essayer de vous donner une idée un petit peu de ces recherches. Je m'excuse par l'avance de du caractère un peu pointu que présenteront certains développements. D'autres seront plus faciles, mais certains seront un peu pointus. Mais il m'a semblé également important de vous décrire la recherche telle qu'elle se fait dans les laboratoires sans la déformer par une schématisation excessive. Mon exposé comportera... Je voudrais aussi m'excuser de la qualité très passable des projections. J'avais préparé avec beaucoup de soin une présentation PowerPoint. Malheureusement, l'équipement informatique ici est insuffisant et la qualité est pas très bonne. Donc j'ai préféré me reporter sur une solution de secours grâce à mon fils qui a fait des diapositives de secours donc, à l'Institut Pasteur. Mon exposé comportera trois parties. D'abord, je voudrais expliquer ce qu'est une onde de matière et parler pour cela de la dualité onde-corpuscule qui associe à tout objet physique à la fois des corpuscules et une onde. En fait, une onde de matière, c'est quelque chose de plus. C'est une situation où un nombre macroscopique d'atomes, voire quelques millions, quelques centaines de milliers, se trouvent tous décrits par la même onde, la même fonction d'onde. Après avoir défini ce qu'est une onde de matière, j'ai essayé d'expliquer comment on peut réaliser de telles ondes et comment on peut les visualiser. Et pour cela, je rappellerai quelques résultats sur le refroidissement laser des atomes et la condensation de Bose-Einstein. Enfin, j'essaierai d'expliquer pourquoi étudier de tels objets, qu'est-ce qu'ils nous apprennent de nouveau, à quoi peut-il servir, quelles motivations sont à la base de ces études. Donc je commence par une analogie entre les ondes lumineuses et les ondes de matière. Une onde lumineuse, qu'est-ce que c'est? Nous savons que c'est une onde constituée par un champ électrique et un champ magnétique, on dit un champ électromagnétique, qui se propage dans l'espace en oscillant dans le temps et dans l'espace. Nu est la fréquence de vibration, la période c'est 1 sur nu. Ces ondes se propagent à une vitesse considérable, de l'ordre de 300 000 km par seconde. Et la couleur de ces ondes dépend de leur fréquence. Les fréquences vont des ondes radio, du domaine centimétrique, métrique, aux rayons X et gamma, le visible correspondant à des fréquences de l'ordre de 10 puissance 14 Hz. À un instant donné, on a donc une onde sinusoïdale caractérisée par un phénomène périodique spatialement, la distance, la période spatiale étant ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda. Et comme toutes les ondes, tous les phénomènes ondulatoires donnent naissance à des phénomènes d'interférence et de diffraction qu'on superpose deux ondes qui sont en phase, leur amplitude est doublée si elles sont en opposition de phase. Elles se compensent parfaitement et on voit apparaître des franges brillantes et des franges sombres. Depuis le début du siècle dernier, nous savons que la lumière est également constituée d'un ensemble de corpuscules ou de grains de lumière qu'on appelle des photons, d'énergie E et de quantité de mouvement P. Et les relations qui relient les paramètres corpusculaires de la lumière et les paramètres ondulatoires sont ce qu'on appelle les relations de Planck-Einstein, que j'ai réécrites ici, à une onde lumineuse plane de fréquence nu, sont associés des photons d'énergie E égale h nu et de quantité de mouvement P égale h nu sur C, où nu est la fréquence de la lumière, h, une constante fondamentale de la physique, qui a été introduite il y a à peu près 100 ans, exactement le 14 décembre 1900. On a célébré l'anniversaire de la constante de Planck il y a quelques mois. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Nous voyons donc que la lumière est à la fois une onde et un jet de corpuscule, et pour comprendre les propriétés de la lumière, on ne peut pas se contenter d'un seul aspect. Les deux aspects sont absolument essentiels et inséparables. En 1924, le physicien français Louis de Broglie a introduit une notion fondamentale et très importante. Il a étendu l'idée de dualité onde-corpuscule à tous les objets matériels, et pas seulement à la lumière. À tout corpuscule matériel de masse m et de vitesse v est associée une onde qu'on appelle maintenant l'onde de De Broglie, dont la longueur d'onde qu'on appelle la longueur d'onde de De Broglie est donnée par h, la constante de Planck, divisée par le produit de la masse de l'atome, de la particule, par sa vitesse v. Quelques mois après l'introduction par De Broglie de cette idée, Schrödinger l'a généralisée et montrer qu'on pouvait décrire de manière plus générale toute particule par ce qu'on appelle une fonction d'onde, une fonction psi qui dépend de R, du point de l'espace et du temps T, et qui obéit à une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui joue pour les particules le rôle des équations de Maxwell pour la lumière. Et à la base de Psi, et donc tous les développements qui se sont produits depuis, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Quelques ordres de grandeur de la longueur d'onde de De Broglie. Si je prends un électron atomique, un électron par exemple de l'atome d'hydrogène, les longueurs d'onde de De Broglie sont de l'ordre de 10-10 mètres, c'est-à-dire 1 angstrom, elles sont de l'ordre de dimension de l'atome. Si on prend un électron accéléré par un potentiel de 10 000 électronvolts, les longueurs d'onde de De Broglie sont encore plus petites, de l'ordre de 0,1 angstrom. Et nous savons que ces ondes électroniques, c'est ce qu'on utilise dans les microscopes électroniques, dont certainement on va vous allez entendre parler dans les conférences suivantes. Si je considère maintenant un corpuscule composite comme un atome qui est constitué de protons, de neutrons et d'électrons, il lui est aussi associé une onde. Mais vous voyez que la masse d'un atome est beaucoup plus grande que la masse d'un électron. Et par conséquent, la masse d'un atome est très élevée. Et dans la formule H sur MV, on a au dénominateur un nombre beaucoup plus grand, de sorte que la longueur d'onde de De Broglie va être beaucoup plus petite, sauf si V, la vitesse de l'atome, est très faible. On arrive donc ainsi à la conclusion, en examinant cette formule, que pour avoir un comportement ondulatoire des atomes qui soit important, il faut avoir des vitesses très basses, donc des températures très basses. D'où l'importance du fait qu'il faut refroidir les atomes pour mettre en évidence leur caractère ondulatoire. Alors, je n'ai pas parlé jusqu'à présent de la signification physique de l'onde. Qu'est-ce que c'est que l'onde associée à un électron ? La première idée, c'était d'ailleurs l'idée de Schrödinger, c'est de penser que l'électron est transformé en une sorte de fluide qui se répartirait dans l'espace sur une dimension de l'ordre des dimensions de la fonction d'onde et qui aurait une charge totale égale à la charge de l'électron. On s'est rendu vite compte que cette interprétation était erronée et que l'onde associée à un électron, à une particule, c'était une onde de probabilité. Quand on regarde où est l'électron, on le trouve soit là, soit là, soit là. Il n'est pas réparti sous forme d'un fluide. C'est toujours une particule ponctuelle. Simplement, le carré de la fonction d'onde, plus exactement le carré du module de la fonction d'onde au point R, donne la probabilité de trouver l'électron en ce point. Donc le lien qui existe entre l'aspect onde et l'aspect corpuscule, c'est un aspect probabiliste. C'est un lien probabiliste. L'onde permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. Si maintenant on a un système de deux atomes et non plus d'un, la fonction d'onde de deux atomes, c'est une fonction de deux variables, R1 et R2. C'est-à-dire comme R1, c'est la position du premier atome, c'est X1, Y1, Z1, R2, c'est X2, Y2, Z2, c'est une fonction de six variables dans un espace à six dimensions. Et le carré de psi de R1, R2, ça représente la probabilité de trouver un atome au point R1 et un atome au point R2. Et en général, une fonction d'onde psi de R1 et R2 ne peut pas être écrite sous la forme du produit d'une fonction d'onde pour la particule 1 par la même fonction d'onde pour la particule 2. Donc l'onde qu'on associe à un système de deux particules, ce n'est pas une onde à trois dimensions, c'est une onde à six dimensions. Et de même, si j'ai trois particules, j'aurai une onde à neuf dimensions, et ainsi de suite. Ce qui caractérise les ondes de matière dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a une situation tout à fait particulière où on a un grand nombre d'atomes qui sont tous décrits par la même fonction d'onde à trois dimensions. On a donc une fonction d'onde à trois dimensions qui est occupée de manière macroscopique. On a 1 million d'atomes qui sont tous décrits par la même fonction d'onde à trois dimensions. Et par conséquent, si on a une telle situation, psi de R au carré en module représente la probabilité d'avoir une particule en ce point, et comme j'ai un très grand nombre de particules, je vais avoir psi au carré au point R va représenter la densité de particules en un point donné, et on va retrouver à ce moment-là l'interprétation de psi de R1 et R2 comme une onde dans l'espace ordinaire dans lequel nous vivons à trois dimensions, qui va représenter une densité de particules, un très grand nombre de particules, une densité de particules qui varie dans l'espace. C'est ça ce qu'on appelle une onde de matière. Et je vais m'intéresser ici à des ondes de matière macroscopiques, c'est-à-dire des ondes dont les dimensions sont de l'ordre de quelques microns et non pas de l'ordre de l'angstrom. Des ondes qu'on pourrait presque voir avec une loupe ou avec des lunettes suffisamment puissantes. D'où les questions qui se posent. Comment réaliser des longueurs d'onde de De Broglie atomique de l'ordre de quelques microns ? Comment arriver à mettre un nombre macroscopique d'atomes de l'ordre du million tous dans le même état ? Comment les manipuler et visualiser de telles ondes de matière ? Et pourquoi de telles études ? Alors, l'origine des progrès qui ont été réalisés dans ce domaine de recherche, tient à deux événements importants. D'abord, le développement de ce qu'on appelle le refroidissement laser et le refroidissement évaporatif. Ce sont des techniques qui ont permis de refroidir les atomes à des températures extrêmement basses, de l'ordre du micro-Kelvin, voire du nano-Kelvin, et d'obtenir donc des longueurs d'onde de De Broglie macroscopiques de l'ordre du micron. La dernière conférence que j'ai donnée à l'UTLS, c'était une conférence sur les méthodes de refroidissement laser. Deuxième grande percée des six dernières années, ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Ça, c'est un phénomène qui avait été prévu par Einstein en 1925, à la suite de travaux faits par Bose, et qui prédit qu'à température suffisamment basse, des atomes identiques de spin entier, piégés dans un puits de potentiel, vont tous se condenser dans le même état quantique décrit par la même fonction d'onde, l'état quantique étant l'état d'énergie la plus basse dans le puits de potentiel qui piège les atomes. Ce sont donc ces deux développements qui ont conduit à la réalisation des ondes de matière et que je voudrais maintenant expliquer l'un après l'autre. D'abord le refroidissement, et d'abord le refroidissement laser. Quelques rappels sur l'absorption et l'émission de lumière par les atomes. La mécanique quantique nous enseigne que l'énergie d'un atome ne peut varier que de manière discrète, elle ne varie pas de manière continue. Quand les atomes ont un état d'énergie le plus bas qu'on appelle l'état fondamental, F, d'énergie EF, et des états excités, E, d'énergie EE. Le phénomène d'absorption d'un photon, c'est le phénomène au cours duquel un atome initialement dans F passe dans E, dans l'état excité, en absorbant un grain de lumière d'énergie H nu. L'émission de lumière par un atome, c'est le processus où l'atome passe au contraire de E à F en émettant un grain de lumière, un photon d'énergie H nu. Cette relation fondamentale, E moins EF égale H nu, n'est autre que la conservation de l'énergie. Pour passer de F à E, l'atome a besoin de gagner une énergie qui lui est donnée par le photon. Quand il passe de E à F, il perd une énergie qui est évacuée par le photon émis. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Il y a également la conservation de la quantité de mouvement. Un photon, c'est une particule qui a une quantité de mouvement H nu sur C. Quand un atome dans l'état fondamental, initialement en repos, absorbe un photon, il recule de la même manière qu'une cible qui reçoit un obus recule. Il recule avec une quantité de mouvement, M qui multiplie V recul, qui est égale à la quantité de mouvement du photon incident, H nu sur C. Il recule donc avec une vitesse, V recul égale H nu sur MC. Donc, ce recul de l'atome qui absorbe un photon, c'est tout simplement dû au fait qu'il a absorbé la quantité de mouvement absorbé, du photon absorbé. La même variation de quantité de mouvement existe lors de l'émission. Lorsque l'émission d'un photon se produit, lorsque l'atome émet un photon dans une direction, il va reculer dans la direction opposée, de la même manière qu'un canon qui tire un obus recule dans la direction opposée. Mais l'émission spontanée d'un photon se fait au bout d'un temps fini, tau R, qu'on appelle la durée de vie de l'état excité. Un atome dans un état excité n'y reste pas indéfiniment, il y reste un temps de l'ordre de 10⁻⁷ secondes. Et l'émission d'un photon peut se faire dans toutes les directions possibles. Et le point important, c'est qu'elle a la probabilité égale de se produire dans deux directions opposées. De sorte qu'en moyenne, la quantité de mouvement perdue par un atome qui émet un photon, comme il peut l'émettre soit là, soit dans la direction opposée, la quantité de mouvement perdue est nulle. Et donc, la quantité de mouvement gagnée dans un cycle absorption-émission, qu'on appelle un cycle de fluorescence, est due uniquement au photon absorbé. Et donc, là, au cours d'un cycle de fluorescence, absorption-émission, la variation de vitesse de l'atome, moyennée sur toutes les directions possibles d'émission du photon, est égale à cette quantité V recul H nu sur MC. Si maintenant nous mettons l'atome dans un faisceau laser résonnant, après avoir absorbé un photon et réémis un photon, l'atome se retrouve dans l'état fondamental, dans le faisceau laser. Il peut absorber un deuxième photon, remonter, redescendre, et ainsi de suite. Il peut effectuer un second cycle, puis un troisième cycle, et ainsi de suite. Combien peut-il faire de cycles par seconde, W? Comme il passe dans l'état excité un temps qui est de l'ordre de tau R, 10⁻⁸ secondes, il peut effectuer un nombre de cycles par seconde qui est de l'ordre de 1 sur tau R, c'est-à-dire de l'ordre de 10⁸ par seconde. Donc, si le cycle dure 10⁻⁸ secondes, il peut en faire 10⁸ par seconde, 100 millions de cycles par seconde. À chaque cycle, sa vitesse change d'une toute petite quantité qui avait recul. Mais comme cet effet se multiplie pendant 100 millions de fois, ça va conduire à un changement de vitesse par seconde, c'est-à-dire une accélération. ou une décélération qui peut être considérable. L'accélération, qui est le changement de vitesse par seconde, c'est égal au changement de vitesse par cycle que multiplie le nombre de cycles par seconde, c'est-à-dire V recul que multiplie 1 sur tau R. La vitesse de recul d'un atome qui absorbe ou qui émet un photon est toute petite, elle est de l'ordre du centimètre par seconde, 10-2 mètres par seconde, alors que les vitesses des molécules de l'air qui nous entourent sont plutôt de l'ordre du kilomètre par seconde. Donc l'effet de recul est un effet tout petit. Mais quand vous prenez ce nombre tout petit, 10-2, que vous multipliez par 10 puissance 8, vous obtenez une accélération de 10 puissance 6 mètres par seconde carré. Or, vous savez que l'accélération de la profondeur, c'est 10 mètres par seconde carré. Donc, un atome dans un faisceau laser résonant est soumis à une accélération ou à une décélération qui est égale à 10 puissance 5 fois G. Quand vous savez qu'un cosmonaute, par exemple, qui subit une accélération de 2 ou 3 G, c'est difficile, vous imaginez ce que représente une accélération de 10 puissance 5 G. Donc, ça veut dire que la lumière exerce sur les atomes une force considérable, susceptible de les arrêter, de les freiner, de les accélérer. Et c'est grâce à ces forces qu'on peut manipuler les atomes. Et c'est grâce à ces forces donc, qu'on peut diminuer la vitesse des atomes, leur vitesse de déplacement moyenne, c'est-à-dire qu'on peut les ralentir. Et on peut aussi diminuer leur vitesse d'agitation thermique désordonnée, c'est-à-dire les refroidir. Plusieurs mécanismes de refroidissement ont été mis en évidence. Le refroidissement Doppler, le refroidissement Sisyphe, le refroidissement subrecul, certains dans notre laboratoire à Paris. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'ils ont fait l'objet d'une discussion détaillée dans la dernière conférence de l'UTLS. Disons simplement que ces mécanismes, donc ces forces exercées par la lumière sur les atomes, permettent de les refroidir à des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, à des températures de l'ordre de 10-6 Kelvin. À titre de comparaison, la température ambiante est de 300 Kelvin, donc on est à des températures près d'un milliard de fois plus basses, et les vitesses d'agitation thermique aux températures ambiantes sont de l'ordre du kilomètre par seconde, donc on passe du kilomètre par seconde au centimètre par seconde. Les atomes se déplacent à des vitesses de cet ordre. Alors, il y a un deuxième type de refroidissement qui a été mis aussi en évidence au cours des dernières années, qui s'est avéré extrêmement important pour l'observation de la condensation de Bose-Einstein. C'est ce qu'on appelle le refroidissement évaporatif. J'ai représenté ici un puits de potentiel dans lequel les atomes peuvent être piégés. Ce puits est réalisé par des gradients d'intensité laser ou par des gradients de champ magnétique. Comme tous les puits de potentiel, la mécanique quantique nous enseigne que les énergies d'un atome dans un puits de potentiel sont quantifiées, sont discrètes. J'ai donc, mettons, un milliard d'atomes dans un puits de potentiel qui subissent des collisions les uns avec les autres, et considérons une collision entre deux atomes qui sont piégés. L'un d'énergie est 1, l'autre d'énergie est 2. Les atomes entrent en collision. Après la collision, l'un à l'énergie est 3, l'autre à l'énergie est 4. Évidemment, la conservation d'énergie implique que E1 plus E2 égale E3 plus E4. Si l'un des deux atomes a gagné une énergie suffisante pour avoir une énergie plus grande que la profondeur du puits, à ce moment-là, il s'échappe, il n'est plus piégé. Il part. Celui qui reste, évidemment, a une énergie beaucoup plus basse. Et quand il rentre en collision avec ceux qui restent, il va refroidir ceux qui restent. C'est exactement ce que vous faites quand vous soufflez sur votre tasse de thé ou de café, vous évacuez les molécules chaudes, et celles qui restent sont froides, sont plus froides, et en se rethermalisant avec les autres, l'ensemble, la température de l'ensemble diminue. C'est un mécanisme très efficace qui permet, au prix d'une perte d'atomes, de refroidir la température, de diminuer la température de ceux qui restent. Alors, il y a une difficulté ici, c'est qu'au fur et à mesure que la température baisse, les atomes vont s'accumuler au fond du puits, et à ce moment-là, la probabilité pour qu'une collision donne à l'un d'entre eux une énergie suffisante pour s'échapper est très faible, et la solution a été trouvée en diminuant, au fur et à mesure que l'échantillon se refroidit, en diminuant la profondeur du puits, ce qu'on appelle une évaporation forcée, pour faire en sorte que l'évaporation demeure efficace au fur et à mesure que la température diminue. C'est ce qu'on appelle une évaporation radiofréquente. J'insisterai pas là-dessus. Et je passe maintenant à la condensation de Bose-Einstein. J'ai représenté ici la figure du physicien Bose, qui a introduit en 1924 une nouvelle statistique pour l'étude des photons. Et Einstein, qui avait accepté le manuscrit de Bose, a imaginé, dans l'année suivante, en 1925, un phénomène qui paraissait tout à fait académique à l'époque et auquel personne ne croyait. Et donc c'est ce phénomène qui a attendu 70 ans avant d'être observé, comme je vais l'expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par condensation de Bose-Einstein? Il faut d'abord que je rappelle des résultats fondamentaux sur les deux types de particules qu'on trouve dans la nature. Les particules qu'on trouve dans la nature se classent en deux catégories, les fermions et les bosons. Les fermions, c'est des particules qui ont un moment cinétique intrinsèque, qu'on appelle un spin demi-entier. J'en ai pas besoin pour la suite, donc je n'entre pas dans les détails. Des exemples de fermions, l'électron, le proton, le neutron. Et les fermions obéissent à ce qu'on appelle le principe de Pauli, qui leur interdit, deux fermions identiques ne peuvent pas se trouver dans le même état quantique. Les fermions sont très individualistes. Une fois qu'un fermion est dans un état, il empêche tout autre fermion d'être dans le même état. Et c'est ce qui explique, par exemple, le remplissage de la table périodique des éléments de la chimie. Les autres particules, c'est ce qu'on appelle les bosons. Ce sont des particules, au contraire, de spin entier, comme le photon, le méson. Et eux, au contraire, aiment se retrouver dans le même état. Ils sont très conviviaux. Quand il y a plusieurs bosons dans un état et qu'on ajoute un, celui qu'on ajoute, il a envie de se mettre avec les autres. Alors, est-ce qu'un atome est un boson ou un fermion? Ça, c'est un peu plus délicat à dire. S'il contient un nombre pair de fermions, c'est un boson. S'il contient un nombre impair de fermions, c'est un fermion. Par exemple, l'hydrogène, un proton, un électron, deux fermions, c'est un boson. L'hélium-4, le noyau, deux protons, deux neutrons, et puis les deux électrons, six fermions, c'est un boson. Par contre, l'hélium-3, deux protons, un neutron, deux électrons, ça fait cinq fermions, c'est un fermion. Et ainsi de suite. Les alcalins, la plupart des alcalins, sodium-23, rubidium-27, 87, lithium-7, ça contient un nombre pair de fermions, ce sont des bosons. Par contre, le lithium-6, c'est un fermion. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de condensation ? Quand on a n bosons identiques, tous dans le même puits de potentiel, qu'est-ce qui se passe quand on baisse la température ? Quand on baisse la température, la longueur d'onde de Broglie de chaque particule augmente. Arrive un moment où la longueur d'onde de Broglie devient de l'ordre de grandeur de la distance moyenne entre deux particules piégées. À ce moment-là, les fonctions d'onde des diverses particules commencent à se recouvrir, elles interfèrent, et c'est là qu'apparaît le phénomène prévu par Einstein. À ce moment-là, toutes les particules, par cette interférence entre les ondes qui leur sont associées, vont toutes se mettre dans l'état fondamental du puits qui les contient. Je pense que la prochaine diapo essaye de schématiser ce qui se passe, essaye de donner une vision schématique des phénomènes en fonction de la température, en partant d'une température très grande devant la température critique, en arrivant à la température critique et en dessous de la température critique. Quand on est très chaud, très au-dessus de la température critique, les longueurs d'onde sont tellement petites qu'on ne voit pas les ondes associées aux diverses particules et qu'elles se comportent vraiment comme des points. Là, la mécanique classique est tout à fait valable. Puis, on diminue la température, on voit apparaître un comportement ondulatoire, mais les paquets d'ondes sont encore très loin les uns par rapport aux autres. Ils ne se recouvrent pas. Quand on arrive à la température critique, ces différents paquets d'ondes commencent à se recouvrir, et à ce moment-là, la fonction d'onde de l'état fondamental du puits commence à être peuplée de manière appréciable, et quand on est très bas devant la température critique, à ce moment-là, toutes les particules sont toutes dans la même fonction d'onde. Vous voyez comment l'évolution des phénomènes en fonction de la température. Dans l'image des niveaux d'énergie, on a ici toute une série de niveaux d'énergie. Quand on est au-dessus de la température critique, il y a des particules un peu partout, dans tous ces niveaux. Quand on arrive à la température critique, il y a un nombre macroscopique de particules qui sont toutes dans l'état fondamental du puits. La théorie du phénomène permet de prévoir que si on porte ici la fraction d'atomes dans l'état le plus bas, N0, c'est le nombre d'atomes qui sont dans l'état le plus bas, divisé par N, le nombre total d'atomes, donc ça c'est la fraction d'atomes condensés, en fonction de T sur TC, la température sur la température critique. Qu'on est au-dessus de TC, il y a très peu d'atomes condensés. Qu'on arrive à T égale TC, et qu'on diminue, le nombre d'atomes condensés devient macroscopique, et il tend vers 1 quand la température tend vers 0. Alors, quand on a des atomes dans un puits, la question qui se pose tout de suite, comment va apparaître la condensation de Bose-Einstein ? On va avoir un nombre énorme d'atomes qui vont être tous dans l'état fondamental du puits, qui est décrit par une fonction d'onde, qui est étroite, parce que, si je reviens en arrière, vous voyez que l'état fondamental a une extension spatiale plus petite que les états excités qui s'étendent plus loin. Donc, on va voir donc la distribution spatiale va voir ce qu'on appelle une structure en casque à pointe. On va voir un pic étroit, ici, provenant des atomes qui sont condensés dans une fonction d'onde qui a une largeur petite, superposé à un piédestal beaucoup plus large, correspondant aux atomes qui ne sont pas condensés, qui sont dans des fonctions d'onde qui sont beaucoup plus larges. Donc la signature de la condensation, ça sera l'apparition d'un pic étroit qui émerge au-dessus d'un piédestal large correspondant aux atomes qui ne sont pas condensés. Alors ici, jusqu'ici, j'ai parlé d'atomes sans interaction. Et jusqu'aux années 90, le seul exemple de situation physique correspondant à la condensation de Bose-Einstein, c'est des systèmes comme l'hélium liquide, superfluide. Alors l'hélium liquide superfluide, c'est un liquide qui a des propriétés tout à fait étranges de superfluidité, mais qui correspond à une situation où les atomes sont très proches les uns des autres, et donc par conséquent, ils ne sont pas sans interaction, ils interagissent beaucoup. L'intérêt des situations dont je vous parle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un liquide qu'on étudie ici, c'est un gaz atomique ultra-froid. Le milieu est très dilué, en fait. C'est parce que la température est très basse, que la longueur d'onde de De Broglie est très grande et qu'elle peut être très grande devant la distance moyenne entre atomes. Mais la distance moyenne entre atomes, dans ce gaz très froid, peut être, elle, très grande devant la portée des interactions entre deux atomes. Autrement dit, on peut observer la condensation de Bose-Einstein dans un régime où les interactions entre atomes sont faibles, beaucoup plus faibles que dans un liquide. Les atomes interagissent beaucoup plus faiblement dans un gaz que dans un liquide, parce qu'ils sont moins proches les uns des autres. Par conséquent, les collisions à trois corps, la probabilité pour que trois atomes arrivent à une distance l'un de l'autre de l'ordre de la portée du potentiel petit a est très faible. Et ce sont ces collisions à trois corps qui vont former des molécules et petit à petit former un liquide. Si je prends un gaz à des températures de l'ordre du microkelvin, si j'attends suffisamment longtemps, le gaz va se condenser sous forme de liquide, voire même d'un solide. Mais c'est parce que ces collisions sont très rares qu'il va falloir beaucoup de temps avant d'arriver au solide ou au liquide, et c'est la raison pour laquelle les condensats qu'on étudie sont en quelque sorte des états métastables. Ce sont des états qui ne sont pas les états vraiment stables du système, mais ils durent suffisamment longtemps, plusieurs minutes, pour qu'on puisse les observer et les étudier. D'autre part, comme les interactions sont faibles, on peut les traiter de manière précise, par des méthodes approchées, et on peut donc avoir une compréhension physique quantitative du phénomène beaucoup plus approfondie que dans l'hélium liquide. J'en arrive maintenant à la description des expériences. Le schéma d'une expérience est le suivant. On part d'un refroidissement et d'un piégeage laser d'atomes à partir d'un jet atomique ralenti ou d'une vapeur. Et après la phase de refroidissement laser, on arrive à quelques microkelvin avec entre 10 millions et 1 milliard d'atomes piégés. Puis on arrête les faisceaux laser et on branche un piège magnétique. Et on comprime le piège magnétique de manière à augmenter la densité d'atomes et augmenter le nombre de collisions élastiques entre atomes. À ce moment-là, l'évaporation apparaît, la température diminue, on diminue la profondeur du piège pour maintenir l'évaporation importante, jusqu'à ce que le seuil de condensation soit atteint. Alors, les fonctions d'onde de l'état fondamental des puits de potentiel que l'on s'est réalisés ont des dimensions de l'ordre de quelques dizaines de microns. Pour les voir plus facilement, ce qu'on fait, c'est on coupe le piège. À ce moment-là, le condensat, les atomes condensés sont libres, ils subissent une expansion balistique, ils grossissent, et une fois qu'ils sont devenus assez gros, on prend une image avec un faisceau laser. Donc, on fait une phase d'expansion balistique, et on fait pour ne pas être limité par la résolution de l'imagerie optique, et on fait l'image à ce moment-là. Alors, j'ai représenté ici comment on visualise le nuage atomique. Ici, c'est la cellule qui contient les atomes. Ici, c'est le condensat, les atomes qui sont dans l'état qui a été piégé. On fait passer un faisceau laser résonnant avec les atomes. Et avec une lentille, on forme sur un écran CCD, une caméra CCD, l'image du nuage. Et ce qu'on observe, c'est l'ombre introduite par le condensat sur le faisceau laser qui traverse. Le faisceau laser est d'autant plus absorbé qu'il passe dans une région de grande densité. Et on fait donc une image par absorption du condensat. Alors, voilà l'image du premier condensat gazeux qui a été observé à Boulder en 1995, il y a 6 ans, sur le rubidium 87. Et ces trois images représentent trois images à deux dimensions, donc de l'absorption du faisceau laser, donc on a un plan à deux dimensions, et en chaque point, on trace en ordonnée l'absorption, c'est-à-dire la densité du nuage. La photo de gauche correspond à une température supérieure à la température critique. Les atomes ne sont pas condensés, on a un piédestal large qui correspond aux atomes qui ne sont pas condensés. Puis on arrive ici à la température critique, on voit émerger au-dessus du piédestal un pic étroit, qui est le condensat. Et puis si on est très en dessous de la température critique, il n'y a plus que le condensat, tous les atomes sont condensés. Quelques mois après, il y a eu une expérience à MIT sur le sodium, qui donne des figures encore plus belles, où on voit ici le nuage thermique pour une température plus grande que TC. La structure a deux modes, bimodes, le nuage thermique plus le condensat à une température voisine de la température critique, et qu'on est très en dessous de la température critique, uniquement le condensat. Donc vous voyez ici, on voit une image à deux dimensions, donc de la forme du condensat. Très récemment à Paris, d'abord à l'Institut d'optique à Orsay, dans l'équipe de mon collègue Alain Spé et Chris Westbrook, puis dans notre équipe à Paris quelques jours après, on a pu observer la condensation de Bose-Einstein d'un atome qui n'est plus dans l'état fondamental, mais dans un état métastable, l'hélium métastable, à un état excité situé à une vingtaine d'électronvolts au-dessus de l'état fondamental. Alors ça, c'est une situation tout à fait paradoxale. On a des atomes excités, mais qui vivent suffisamment longtemps pour qu'on puisse les condenser. Et là aussi, on voit la distribution bimodale, le piédestal et le pic d'atomes condensés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les condensats de Bose-Einstein? Quel type d'expérience on peut faire? Il y en a plusieurs. On peut d'abord étudier leur structure, leur forme, on peut étudier leur dynamique, comment ils vibrent lorsqu'on les met hors d'équilibre, leur mode de vibration. On peut étudier les interférences entre deux condensats, étudier leurs propriétés de cohérence. On peut extraire d'un condensat un faisceau d'atomes cohérents et réaliser ce qu'on appelle maintenant un laser à atomes. Et on peut aussi étudier leurs propriétés de superfluidité. Je vais passer en revue très brièvement quelques-unes de ces propriétés. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés plus en détail, qui sont plus spécialistes, je peux mentionner que mon cours au Collège de France qui porte sur ces questions, et les notes de cours sont disponibles sur ce site web www.ensfrcct. Alors, comment on fait une interférence entre deux condensats? Alors, l'expérience est faite de la manière suivante. On part d'un condensat unique d'abord, qui a la forme d'un cigare allongé. Parce que les pièges dans lesquels on les piège sont très anisotropes. Et on a donc un condensat qui a la forme d'un cigare allongé. Au moyen d'un faisceau laser, on coupe ce condensat en deux. On a donc deux condensats séparés. Puis à l'instant t égale 0, on les lâche. Ils tombent, ils grossissent parce qu'ils sont libres, ils se recouvrent, et avec un laser sonde, on regarde la région de recouvrement, et ce qu'on voit, c'est ce qui est montré dans la figure suivante, on voit de très belles franges d'interférence, des zones brillantes et des zones sombres, ce qui montre que les deux ondes de matière associées aux deux morceaux du condensat qu'on a coupé en deux sont cohérentes l'une avec l'autre et sont susceptibles d'interférer et de donner naissance à des franges Hume. Donc c'est un peu l'équivalent de l'expérience de frange d'interférence avec deux lasers indépendants. Alors maintenant, une idée importante, c'est la suivante. Si on a un condensat avec des atomes qui sont dans un puits, si on fait une fuite dans le puits, si on perce un petit trou dans le puits, il y a des atomes qui vont s'échapper du puits de potentiel qui les piège, qui vont former un faisceau d'atomes cohérents qui vont s'échapper du piège et qui vont former donc un faisceau cohérent qu'on appelle un laser à atomes. Cette situation est très voisine de celle qu'on a dans un laser, ici ça, où on a une cavité laser comportant beaucoup de photons à l'intérieur, et l'un des miroirs de la cavité n'est pas parfait, il est partiellement réfléchissant, et il laisse échapper des photons formant un faisceau cohérent de lumière. Ici, c'est donc la même idée qui est faite, on obtient un faisceau cohérent d'atomes. Et l'image suivante vous montre quatre exemples de laser à atomes qui ont été obtenus à MIT, Munich, Yale et Gettysburg, où on voit donc des bouffées d'atomes qui sortent, qu'on fait ce trou, qu'on applique ce trou de manière impulsionnelle. On fait donc échapper des bouffées d'atomes, formant des faisceaux cohérents d'atomes, qui durent plus ou moins longtemps, suivant le temps qu'on les laisse s'échapper. Alors, ce qui est limité pour le moment, c'est que il faut à peu près 30 secondes pour faire un condensat. C'est pas facile, c'est long. Et une fois qu'on a vidé le puits, il faut recommencer. Donc tous les lasers atomes qu'on s'est réalisés jusqu'à présent sont des lasers pulsés. Ils ne marchent que pendant jusqu'à ce qu'on épuise l'atome. Nous essayons en ce moment à Paris, depuis quelques mois, dans l'équipe de Jean Dalibard et de David Guéry-Audelin de faire un laser atome continu, où on part d'un jet atomique continu et on essaye de le condenser dans l'espace. Si ça marche, ça sera important parce que ça nous donnera un faisceau cohérent de matière. Ici, je vous montre une autre expérience montrant de manière spectaculaire les propriétés de cohérence des condensats. Ici, j'ai le puits de potentiel dans lequel est piégé le condensat. Et on applique deux champs de radiofréquence qui percent les trous et qui font partir les atomes de ce point et de ce point pour donner naissance à deux faisceaux cohérents qui sont expulsés du piège en deux points différents. Donc, avec deux champs de radiofréquence, on fait deux trous situés à des distances différentes du condensat et on regarde les deux ondes de matière qui sortent. Et voici le résultat qu'on observe. Quand on est au-dessus de la température critique, les deux ondes de matière n'interfèrent pas. Ça veut dire qu'elles sont incohérentes l'une avec l'autre. Quand on arrive près de la température critique, où y apparaissent des interférences, ça veut dire à ce moment-là que la cohérence spatiale du condensat se développe, et quand on est très en dessous de la température critique, on voit des magnifiques formes d'interférences. Ça veut dire qu'en dessous de la température critique, quand le système se condense, il apparaît un ordre à longue portée, et la phase du condensat est la même sur toute l'étendue spatiale du condensat. Les longueurs de cohérence d'un condensat peuvent être de l'ordre de grandeur de l'extension spatiale du condensat, elles peuvent être de l'ordre de grandeur d'une dizaine de microns. Donc ça veut dire que le condensat est un objet cohérent. La phase est la même en tous les points du condensat. Je termine par la superfluidité. Il y a un phénomène tout à fait fabuleux dans l'hélium liquide qui est le suivant, c'est que si on prend l'hélium liquide superfluide, et si on prend un objet qui se déplace dans l'hélium liquide, superfluide, s'il se déplace lentement, il ne subit aucune résistance de la part du liquide. À partir d'une certaine vitesse seulement, il commence à sentir la viscosité du liquide, il commence à être ralenti. Autrement dit, dans un liquide superfluide, à une vitesse inférieure à la vitesse critique, un objet se déplace sans aucune friction. De même, si vous prenez un récipient contenant de l'hélium liquide et que vous tournez le récipient, si vous tournez le récipient lentement, il n'y a aucune friction entre les parois du récipient et le liquide reste immobile. C'est seulement quand la vitesse de rotation devient suffisamment grande qu'une friction apparaît entre les parois et le liquide et que le liquide se met à tourner pour former ce qu'on appelle des tourbillons quantiques. Alors ce qui est remarquable, c'est que ces phénomènes qui sont observés dans un milieu condensé, comme l'hélium liquide superfluide, ont été observés récemment sur des milieux gazeux comme les condensats de rubidium ou de sodium à des densités beaucoup plus faibles. Et je vous montre dans le prochain transparent un exemple de tourbillon quantique qui a été observé donc, dans notre équipe, dans l'équipe de Jean Dalibard, Kirk Madison, Frédéric Chéhuy et Wally Benn. Vous voyez ici un condensat, donc ça c'est la forme du condensat et ça c'est les lignes d'égale densité projetées sur un plan horizontal. Pour une vitesse de rotation du piège inférieure à la vitesse critique, et puis quand on augmente la vitesse au-dessus de la vitesse critique, on voit apparaître un tourbillon comme un cratère dans le condensat, qui s'appelle vraiment un tourbillon comme les tornades, les cyclones qu'on observe en météorologie. Ce qui est remarquable aussi, c'est que ces tourbillons sont quantiques, c'est-à-dire que l'intégrale de la vitesse le long d'un cercle est quantifiée, c'est ce qu'on appelle donc la quantification de la circulation de la vitesse. Et voilà ce qu'on observe quand on augmente, quand on part d'un condensat et qu'on augmente la vitesse de rotation. Ici, en dessous de la vitesse critique de rotation, on voit juste un condensat qui est au repos. Puis on voit apparaître un tourbillon. Puis un réseau de tourbillons qui rappelle tout à fait les réseaux de tourbillons qu'on observe dans des systèmes condensés comme les supraconducteurs ou l'hélium superfluide. Mais ça, c'est observé dans un gaz extrêmement dilué. Je crois que j'en arrive à ma conclusion. J'espère vous avoir convaincu d'abord que les condensats, les ondes de matière, c'est-à-dire les condensats, présentent des propriétés extrêmement originales, qui les apparentent à d'autres systèmes qui étaient connus jusqu'ici seulement en matière condensée, comme l'hélium superfluide ou les supraconducteurs. L'élément nouveau et qui est spectaculaire, c'est que ces propriétés étranges, superfluidité, cohérence, apparaissent sur des systèmes qui ne sont pas des liquides, qui sont des systèmes gazeux extrêmement dilués, près de 100 000 fois plus dilués que l'air ambiant. Donc on a vraiment un système extrêmement dilué où les interactions sont très faibles et peuvent être étudiées de manière très précise. Alors, ils peuvent vraiment être considérés comme un nouvel état de la matière. Les efforts se poursuivent actuellement sur les fermions. On essaye de refroidir les fermions à des températures suffisamment basses pour que leur longueur d'onde de Broglie devienne elle aussi grande devant la distance moyenne entre deux fermions. Et là, il y a un phénomène auquel beaucoup d'équipes pensent et rêvent, parce qu'il n'est pas facile à observer, mais qui est le suivant, c'est que comme les fermions, comme les, par exemple si on a des atomes de lithium 6, qui sont des fermions, comme ils s'attirent, ils ont une interaction attractive, on peut espérer qu'ils s'attirent deux par deux pour former des paires de fermions. Et une paire de fermions, c'est un boson, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un boson, s'il y a un nombre pair de fermions, c'est un boson. Et si donc les fermions s'accouplent deux par deux, ils peuvent former un gaz de boson qui va se condenser. En fait, ce phénomène est déjà connu en physique. Les supraconducteurs, la propriété qu'a un métal de conduire l'électricité sans aucune résistance à une température suffisamment basse, c'est un phénomène où les électrons du métal s'apparient par paire pour former des bosons, lesquels se condensent pour donner naissance à la phase supraconductrice. Donc on peut espérer observer sur un gaz de fermion dégénéré des phénomènes d'accouplement par paire et de condensation de Bose-Einstein des paires ainsi créées. Au laboratoire, nous avons actuellement dans l'équipe de Christophe Salomon la coexistence dans un piège d'un condensat de lithium 7 avec des atomes de lithium 6 qui sont des fermions et la température est déjà très basse. On espère aller encore plus loin dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, le dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a une nouvelle optique atomique qui est en train d'apparaître. Et nous avons tous la révolution qui s'est produite en physique quand, il y a une quarantaine d'années, les lasers sont apparus. On est passé des sources ordinaires, thermiques, des lampes, des projecteurs, à des sources laser qui sont extrêmement directives, cohérentes, extrêmement intenses. Vous pouvez envoyer un faisceau laser sur la Lune et puis avoir une petite tache sur la Lune qui revient, vous pourrez mesurer la distance de la Terre à la Lune. Il y a toute une série, l'optique a été complètement bouleversée et révolutionnée quand on est passé des sources lumineuses incohérentes aux sources lumineuses cohérentes que sont les lasers. Est-ce qu'on peut espérer une révolution analogue en physique des atomes quand on va passer des jets atomiques ordinaires incohérents aux lasers atomes cohérents dont je vous ai parlé tout à l'heure? Ça, c'est une question qui est ouverte. On peut prévoir qu'il y aura une révolution analogue. Il y a déjà des applications nombreuses qui commencent à être explorées, des interféromètres utilisant les ondes de Broglie. Et on peut penser, ce n'est pas exclu, que dans quelques années, les gyromètres qui sont utilisés dans les avions pour la navigation sont remplacés par des gyromètres à ondes de Broglie. Il y a également la lithographie atomique. On peut déposer des faisceaux cohérents d'atomes sur des structures, sur des substrats, pour former des dépôts servant à faire de la microélectronique, voire de la nanoélectronique. Il y a également ce qu'on appelle l'optique atomique non linéaire. On sait maintenant en optique mélanger deux fréquences optiques pour en créer une troisième. On peut aussi espérer mélanger deux fréquences d'ondes de Broglie atomiques pour en créer une troisième. Il y a donc toute une série d'applications qui peuvent être explorées. Mais je serai méfiant à ce sujet parce qu'en général, c'est très difficile de faire de la prospective et les applications les plus intéressantes d'avancer dans la recherche fondamentale en général ne sont pas prévues au début, elles apparaissent après. Voilà, je vous ai donc essayé de vous donner une idée globale des recherches qui s'effectuent dans ce domaine, et j'espère très fermement que nous aurons des surprises nouvelles et des développements nouveaux dans les années qui viennent. Merci pour votre attention.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que quand le piège était arrêté, le nuage se augmentait de taille. Pour quelle raison, s'il vous plaît?
Alors, il augmente de taille parce que dans le piège, il est confiné. Il est maintenu par les forces de piégeage. Quand le piège s'arrête, il n'est plus confiné et les vitesses initiales des atomes vont être libres. Et ils vont partir avec leur vitesse initiale pour former une douche. Il y a en plus le fait que quand on les lâche, comme ils se repoussent, ils vont également...
Il semblait que vous aviez dit qu'ils avaient tendance à s'attirer.
Ils avaient tendance à
s'attirer.
Ah non, ça dépend. Il y a des condensats, les condensats de rubidium et de sodium sont faits avec des atomes qui se repoussent. Le condensat de lithium est fait avec des atomes qui s'attirent. Donc, suivant la nature des atomes, on a des attractions ou des répulsions. Un condensat fait avec des atomes qui se repoussent peut contenir autant d'atomes qu'on veut parce qu'on peut contrebalancer l'effet de répulsion par l'effet du piège. Par contre, si les atomes s'attirent, si on essaye de les condenser, au bout d'un certain moment, ils vont s'attirer et le condensat va disparaître comme une supernova qui explose. Alors, par contre, quand on lâche le piège, si le nuage atomique est soumis à des forces de répulsion, le nuage va grossir.
Pardon, je suis philosophe. Je voulais justement parler vraiment en dernier lieu parce que j'ai toujours l'éternelle question des philosophes épistémologues quand j'entends ce genre de choses, c'est-à-dire la question du langage. C'est-à-dire quand vous dites il tombe, il se renverse, on le voit, on a des images et on visualise, on s'aperçoit aussi que la visualisation est faite par un laser, par exemple. Il est évident que, en bonne bachelardienne que je suis, parce que je suis un peu âgée, on est très très loin. On se pose la question du statut conceptuel descriptif des termes que vous employez, parce que là, ça coule comme de l'eau claire, n'est-ce pas ? On est tous contents parce qu'on entend ça va, ça vient, ça tombe, ça fait des ronds, il y a des trous. Bon, c'est comme oui, au petit déjeuner.
Je peux vous donner une réponse très brève. J'étais jeune étudiant, je venais de terminer ma thèse en 62. Il y avait à Paris le premier congrès d'électronique quantique en 63. Les lasers venaient de faire leur apparition un an auparavant. Le premier laser date de 62. Et quand les gens parlaient des lasers dans ce premier congrès qui avait lieu à Paris, la plupart des gens souriaient et disaient « c'est une solution qui attend son problème. C'est encore un jouet de physicien qui ne sortira jamais du laboratoire. » Ils parlaient des lasers en 63. Maintenant, regardez le marché des lasers, les compact disques, les fibres optique, la chirurgie ophtalmique, les mesures de distance, la géophysique, les applications militaires, la télédétection, c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, je serai très prudent. Évidemment, au début, quand une recherche fondamentale commence, on dit, bon, c'est des trucs pour ces fous de physiciens ou ces fous de biologistes, laissons-les jouer dans leur laboratoire, et puis en général, les applications apparaissent après. La même remarque pourrait être faite à propos du transistor. Quand le transistor a été découvert, à propos de l'étude de la conduction dans un semi-conducteur, on trouvait ça tout à fait folklorique. Est-ce qu'on peut imaginer maintenant vivre sans l'électronique solide, tous les ordinateurs, toute la physique dans laquelle nous vivons, tous les objets que nous utilisons sont basés sur des milliards de transistors? Donc là aussi, je serais très prudent. De même, la résonance magnétique, ça apparaît comme un... Au début, ça paraissait comme une idée farfelue de physiciens qui occupaient leur temps. Maintenant, il y a l'IRM, il y a les diagnostics médicaux. Donc, attention à ne pas décrire la recherche fondamentale. Toute la technologie sur laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de la recherche fondamentale il y a 10 ans. Et de la recherche fondamentale que nous faisons en ce moment, ça sera ce qui inspirera les applications dans une dizaine d'années.
Onde de matière et en même temps, onde de probabilité, c'est la même chose. Mais ces ondes de matière, elles ont une dimension physique.
Si on a un seul électron, une seule particule décrite par une fonction d'onde, psi au carré donne la probabilité de trouver l'électron au point R. D'accord ? Si on a maintenant 1 million d'atomes tous décrits par la même fonction d'onde, psi au carré va représenter la probabilité de trouver, normalisée à N, de trouver dN atomes dans ce volume. Il y en aura tellement qu'on aura toujours une probabilité non nulle de trouver des atomes dans ce volume, et à ce moment-là, psi au carré représentera la densité de particules au point R. Et qu'une quantité qui variera de manière continue et qui représentera en quelque sorte une densité d'un fluide, le fluide étant quand même constitué chaque fois de particules ponctuelles. Alors, le champ électromagnétique, c'est la même chose.
Continue à parler
On a commencé à trouver le champ électromagnétique dans l'autre ordre. Le champ électromagnétique est apparu d'abord sous l'aspect onde lumineuse. Et c'est seulement après qu'on a trouvé le photon et qu'on a réinterprété l'onde lumineuse comme la probabilité de trouver le photon d'un point. Mais c'est la même chose. Une onde lumineuse, c'est une onde condensée où il y a un nombre macroscopique de photons, toutes dans le même état. Mais le champ électromagnétique lui aussi a une signification probabiliste. Il n'acquiert une signification physique qu'à la limite où le système est condensé et macroscopique.
Bonsoir, je suis fondamentaliste, enfin, je suis biochimiste, mais votre conférence m'a beaucoup intéressé. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique les magnifiques couleurs que l'on voit lorsque on a vu apparaître ces pics, lorsque les, Là, il y a des couleurs rouges, vertes, bleues, qui représentent une magnifique montagne, si je puis dire, mais c'est je suppose qu'il y a une explication tout à fait cohérente.
Oui, c'est sur la signification des couleurs.
Les couleurs.
Excusez, le son, là, vraiment, ça, nous pose des problèmes.
Ça, hein. Les couleurs, c'est des fausses couleurs. C'est un code de couleurs. Chaque couleur est associée à une densité optique. C'est simplement pour rendre plus visuel la variation de la densité optique en fonction de la position du point. C'est un code de couleur, c'est une image artificielle. Mais évidemment, le faisceau laser qui sert à faire l'image a une seule couleur. C'est un faisceau de laser à sodium ou laser à rubidium. Il a une seule couleur. Mais il est absorbé plus ou moins, et on fait un code pour représenter le niveau d'absorption.
Bon, on va prendre encore une question ici. Il y en a en haut ou pas ?
Bonjour.
Non, je ne crois pas. Hein. Donc, on va prendre encore une question ici, et puis peut-être une autre. Voilà, deux dernières questions, monsieur.
Donc, bon, je vous remercie de votre conférence. J'ai été frappé de voir que les travaux que vous présentez encore maintenant sont simplement l'application des travaux fondamentaux des années 20, des années 30, donc du siècle dernier. Donc, j'aimerais vous demander, ce sera quoi la physique de ce siècle-là ? Quels sont les problèmes à résoudre qui vont engendrer un pas qui nous permettra de dépasser finalement la mécanique quantique il y a presque maintenant 80 ans.
La question que vous posez, c'est quelles sont les motivations des études ?
Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, ce que vous montrez comme travaux sont des applications, des découvertes théoriques, vous l'avez dit, des années 20, 1920, 1930. Oui. Donc, bon, ok. Donc, qu'est-ce qui va venir après, quoi ? Je veux dire...
Quand Einstein a publié son papier en 1925, personne n'y croyait. Tout le monde traitait ce problème de purement académique parce que les températures auxquelles se produisait la condensation de Bose-Einstein étaient tellement basses que le seul état auquel on pouvait s'attendre, c'était un liquide ou un solide. Donc, c'était considéré comme un problème purement académique. Sauf pour l'hélium liquide ou l'hélium superfluide où il y a ce phénomène qui apparaît. Mais dans l'hélium superfluide, les interactions sont considérables et le calcul d'Einstein qui est relatif à un gaz parfait était absolument inapplicable. C'est le mérite des expériences qui viennent de se produire, de réaliser une situation où on peut observer le phénomène de condensation sur un système qui vit suffisamment longtemps pour qu'on l'observe, mais qui est un état métastable. Donc on a pu réellement observer le phénomène prévu par Einstein et calculer les corrections liées aux interactions entre atomes.
Oui, je voudrais...
Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende.
Je voudrais savoir comment sont réalisés les puits de potentiel qui piègent. Quelle est leur nature ?
La nature des pièges.
Oui,
alors,
le potentiel.
Pour l'instant, il y a deux types de pièges qui sont utilisés. D'abord, des pièges magnétiques. On crée un gradient de champ magnétique au moyen de courants appropriés dans des bobines. On crée des configurations où le module du champ magnétique varie dans l'espace et passe par un minimum. Et on peut montrer à ce moment-là qu'il est possible... Si on a un atome qui a un moment magnétique, on est possible de piéger l'atome au minimum du champ magnétique. Donc le premier type de piège utilise des gradients de champ magnétique et utilise le magnétisme des atomes. Il y a un deuxième type de piège qui utilise des faisceaux laser très focalisés, qu'on appelle des pièges laser, et là, suivant que le laser est désaccordé vers le rouge ou vers le bleu, l'atome va se piéger à un maximum ou à un minimum d'intensité lumineuse. C'est ce qu'on appelle des pièges laser. Et ces deux pièges ont été utilisés l'un et l'autre pour faire des condensats pièges. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer ça parce que j'avais abordé ces questions dans la précédente conférence de l'UTLS.
C'était le 4 août 2000. Voilà. Écoutez, Claude Cohen-Tanouzi, nous vous remercions très chaleureusement.